J'en viens maintenant à la présentation de notre conférencier de ce soir, Sylvain David. Sylvain David est né en 1972, il est physicien, il est chargé de recherche au CNRS et depuis 1999 à l'Institut de physique nucléaire. Pour son parcours, il a été élève de l'École nationale supérieure de physique de Grenoble. Il a fait une thèse en physique sur la capacité des réacteurs hybrides au plomb pour l'incinération de déchets et la production d'énergie à l'université Joseph Fourier de Grenoble. Il est spécialiste de physique nucléaire appliquée aux réacteurs innovants pour la production d'énergie et l'incinération de déchets. Il a travaillé sur un cycle innovant de combustible basé sur le thorium. Pour sa bibliographie, il a écrit des articles spécialisés sur les systèmes hybrides et sur le cycle thorium. Il est également co-auteur d'un livre spécialisé qui s'appelle Accelerator Driven Subcritical Reactors. Et sur ce thème également, sur le thème de la conférence de ce soir, il a publié avec Sébastien Balibar et Lionel Solomon dans Les images de la physique en 2005 un article intitulé Les sources d'énergie du 21e siècle qui reprend un certain nombre d'éléments qu'il va nous exposer ce soir. Il est également membre du groupe Énergie de la Société française de physique et organisateur de l'école doctorant Énergie et recherche. Je lui cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi suivra un débat avec le public d'une vingtaine de minutes. Je vous remercie.
Bon, je vous remercie d'abord d'être venu en ce long week-end estival et je vous propose donc de faire un tour d'horizon des différentes sources d'énergie dont on peut disposer d'ici 2050 dans le contexte, vous en doutez, de la fin des énergies fossiles, pétrole et gaz et puis dans le contexte aussi de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Alors la première chose que je voudrais dire, c'est que c'est une problématique qui, d'après moi, me semble pas vraiment facile d'accès et assez compliqué, surtout quand on veut comparer différentes sources d'énergie. Et la première explication à cette complexité, c'est simplement l'utilisation des unités, comment on mesure l'énergie, et selon les sources, selon les systèmes qu'on va regarder, chacun a sa propre unité, et se balader là-dedans est très compliqué. Je peux vous dire que 90% de mon travail pour préparer cette présentation, ça a été de jouer entre les joules, les kilowattheures, les térawattheures par an, les watts, les tonnes équivalent pétrole, etc. Donc j'ai essayé de vous simplifier un peu le travail en me focalisant sur quelques unités qu'on utilise. Alors quand même, pour faire une petite liste non exhaustive, les unités de base, c'est le joule pour l'énergie et le watt pour la puissance, le watt étant un joule par seconde. Et dans les processus élémentaires de chimie, l'ordre de grandeur des énergies mises en jeu, c'est l'électronvolt, qui est une énergie très petite. Vous voyez ici 1,6 × 10⁻⁹ joules. Donc ça, c'est la chimie. Ça concerne les électrons des atomes qui entrent en interaction. Et dès qu'on passe au noyau de l'atome, les ordres de grandeur des énergies de liaison mises en jeu sont 1 million de fois plus élevés. Et on parlera de millions d'électronvolts ou de MeV. Alors après, quand on paye notre facture d'électricité, on paye 1 kWh, 1000 watts pendant une heure. Alors combien ça fait de watts en moyenne? Enfin, il faut savoir le nombre d'heures par jour ou par an pour calculer ça, c'est assez compliqué. Quand on fait de la voiture, on calcule l'énergie en litres d'essence. La puissance de la voiture, c'est des chevaux vapeur, alors c'est 735 watts. Comment on s'y retrouve? Les industriels, on va parler de terawattheure, donc 10 puissance 12, donc c'est des millions de millions de watts-heure. De terawattheure par an, le pétrole, vous savez qu'on utilise le baril. Dans l'alimentation, c'est la calorie, alors c'est 4,18 joules ou 4180, ça dépend s'il y a une majuscule ou pas. Donc. Et puis on parle beaucoup de tonnes équivalent pétrole, parce que la majorité de l'énergie qu'on consomme aujourd'hui vient du pétrole. Alors je vais, dans toute la suite, essayer, quand je le peux, d'utiliser uniquement les tonnes équivalent pétrole, et puis les watts quand je parlerai d'électricité. Alors, la tonne équivalent pétrole, c'est assez simple dès qu'on parle de chaleur, c'est-à-dire qu'on brûle du pétrole, de l'essence, du bois, du charbon, on sait assez facilement remonter à la tonne équivalent pétrole qu'on a consommée. Donc une tonne de pétrole, c'est 42 milliards de joules, l'essence c'est à peu près pareil, vous voyez, le charbon c'est un peu moins énergétique au kilo, et le bois c'est à peu près, il faut 6 terres de bois pour faire une tonne de pétrole. Alors quand on parle d'électricité, ça devient plus compliqué parce que aujourd'hui, pour faire de l'électricité, on fait de la chaleur et puis on transforme cette chaleur en électricité. Et entre les deux, il y a un rendement thermique qui dépend de la température qu'on utilise dans les systèmes. Alors avant 2002, on il n'y avait pas de problème. On calculait simplement la masse de pétrole qu'il fallait pour produire une quantité d'électricité donnée, sachant que le pétrole avait un rendement de 38,7%. Donc c'était une définition assez logique de la tonne équivalent pétrole. Ça signifiait exactement combien de tonnes de pétrole on aurait utilisé pour faire cette énergie. Depuis 2002, ça change. Alors, me demandez pas pourquoi, je sais pas. Et me demandez pas de vous l'expliquer non plus, parce que je comprends toujours pas au bout de 2 ans. La définition de la tonne équivalent pétrole dépend maintenant de la source d'énergie qu'on utilise et du rendement qui est propre à cette source. Alors sans entrer dans les détails, vous voyez que la définition de la tonne de pétrole, elle varie entre 0,26 pour le nucléaire, 0,86 pour la géothermie et 0,086 pour les autres sources, par exemple éolien ou photovoltaïque. Donc ça veut dire que quand on utilise un kilowattheure chez soi, si c'est nucléaire ou éolien, on n'a pas économisé la même quantité de pétrole. Donc vous voyez un peu presque l'absurdité de cette définition. Alors il y a sans doute des raisons, mais je vous dis encore, je ne les ai pas comprises. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans l'import-export, on utilise la dernière conversion, c'est-à-dire que quand la Suisse achète du nucléaire à la France, la tonne équivalent pétrole se conserve pas à la frontière. Alors ça, pour un physicien, c'est un peu choquant, puisque l'énergie, le principe de base, c'est que l'énergie se conserve, mais pas la tonne équivalent pétrole. Donc, à partir de là, j'utiliserai la tonne de pétrole pour la chaleur, pour les transports, là où il n'y a pas d'ambiguïté. Et puis, pour l'électricité, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de parler essentiellement en watts, ou en terawattheure, mais essentiellement en watts, sous-entendu en watts permanents. Alors un tour d'horizon très rapidement pour avoir des ordres de grandeur en tête. Dans le monde, on consomme 10 milliards de tonnes de pétrole par an, soit 1,6 tonne par habitant et par an environ. Et l'électricité, on consomme environ 250 watts en permanence et par personne dans le monde. Alors en France, c'est très différent. Quand on regarde la consommation par habitant, on consomme presque 4 tonnes de pétrole, tonne équivalent pétrole. Alors il y a 1,2 tonne pour la chaleur, soit se chauffer les habitations ou dans l'industrie, presque 1 tonne pour le transport, et on consomme 1000 watts électriques en permanence. Un Français consomme 1000 watts, que ce soit à la maison ou dans l'industrie. 1000 watts en permanence. Et puis un chiffre qui est assez intéressant, c'est que la population mondiale aujourd'hui, elle augmente d'à peu près 200 000 par jour. Donc si ces 200 000 personnes consomment cette quantité d'énergie moyenne, eh bien, ça revient à installer une puissance de 450 mégawatts par jour, sachant que l'ordre de grandeur d'une centrale nucléaire ou d'une centrale à charbon, c'est 1000 ou 2000 mégawatts. Donc vous voyez que c'est pas tout à fait négligeable. Il faut installer 2-3 réacteurs nucléaires par semaine dans le monde pour assurer la consommation d'énergie des nouveaux habitants. Alors voilà plus schématiquement la consommation d'énergie dans le monde. Ça, c'est une vraie photo prise de l'espace de la Terre la nuit, reconstituée parce que vous aurez noté qu'il ne fait pas nuit partout en même temps, évidemment. Et on voit les pays riches, l'Europe, les États-Unis et le Japon qui sont saturés de lumière. On voit la grosse différence, évidemment, avec les pays très pauvres comme l'Afrique, une grande partie de l'Amérique du Sud. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit déjà l'Inde et la côte est de la Chine qui s'allument sensiblement. Également la côte est de l'Amérique du Sud. Donc une grosse différence de consommation d'énergie entre les pays riches et les pays pauvres, mais je ne vous apprends rien, évidemment, là-dessus. Donc quand on regarde comment on consomme, donc je vous ai dit 10 milliards de tonnes équivalent pétrole, près de la moitié en Europe et aux États-Unis, là où il y a assez peu de population par rapport à la population mondiale, et déjà 2 milliards de tonnes de pétrole en Chine et en Inde. Et quand on se projette en 2050, alors il y a beaucoup de scénarios de projection de consommation d'énergie pour 2050 qui varient entre 15 et 30 milliards de tonnes de pétrole par an. Donc ça signifie d'une part que la consommation d'énergie va augmenter de toute façon, quels que soient les efforts que font les pays riches qui gaspillent pour limiter leur consommation. Les pays en voie de développement vont augmenter leur consommation, et c'est là où il y a beaucoup de population. Et donc, globalement, la consommation mondiale d'énergie va augmenter. Alors elle va augmenter entre 15 et 30, ça dépendra des politiques de sobriété mises en place. Et pour la suite, je vais essentiellement parler d'un scénario x2, c'est-à-dire qu'on va envisager un doublement ou un petit doublement de la consommation d'énergie dans le monde. C'est déjà un scénario qui est relativement sobre par rapport au scénario où on laisse faire et on laisse consommer les gens comme ils veulent consommer. Et quand on regarde ce scénario x2, eh bien, même si les pays riches augmentent leur consommation d'énergie, ils n'augmentent pas d'un facteur 2, et on a une augmentation très sensible en Chine et en Inde, qui consommeront sans doute en 2050 quasiment autant que ce que consomme le monde aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était pour donner un panorama du contexte énergétique mondial actuel, et puis des projections qu'on peut faire avec toutes les barres d'erreur évidemment qu'on peut y mettre et les bémols qu'on peut y mettre. Alors sur les sources, comme vous le savez aussi, on consomme essentiellement des combustibles fossiles, pétrole, gaz et charbon, qui sont finalement de la biomasse stockée dans la nature depuis des millions d'années, transformée en pétrole, en gaz ou en charbon, qu'on récupère aujourd'hui, et dont les stocks sont bien entendu limités, et en plus qui conduisent à la production de gaz carbonique, et qui est un gaz à effet de serre. Donc c'est 80% de la consommation d'énergie aujourd'hui qui est faite avec le pétrole, le gaz et le charbon. La biomasse traditionnelle, c'est le bois de chauffage, essentiellement dans les pays en voie de développement. C'est pas du tout une source d'énergie négligeable au niveau mondial, c'est 10% de l'énergie. L'hydraulique, 7% de l'énergie dédiée à l'électricité. Le nucléaire, 6%. Et les nouveaux renouvelables, ça fait 2 pour 1000 de l'énergie aujourd'hui. Alors ici, vous avez vu, il y a des TEP et de l'électricité, donc pour être clair, j'ai pris la définition que je comprends, c'est-à-dire avant 2002. Alors maintenant, je vous propose de faire un tour des différentes sources d'énergie, et je commence évidemment par les énergies fossiles, charbon, gaz, pétrole. Et vous voyez que les processus élémentaires, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on brûle un carbone avec de l'oxygène, on produit une énergie qui est de l'ordre de l'électronvolt. Et quand on compare le charbon et le gaz naturel, on voit que pour une molécule de CO2 émise, on a produit deux fois plus d'énergie avec le gaz. Donc on fera, pour une quantité d'énergie produite, deux fois moins de CO2 en utilisant du gaz naturel par rapport au charbon. Et le pétrole est un peu entre les deux. Alors pour avoir encore des ordres de grandeur, une centrale électrique de 1 gigawatt électrique, qui est la taille, l'ordre de grandeur des centrales électriques, ça demande 2,3 millions de tonnes de carbone par an, ou 1 million de tonnes de gaz par an en tenant compte des rendements. Enfin bon, c'est pour avoir des ordres de grandeur. Et si je reviens à la consommation française électrique de 1000 watts électriques par habitant constamment, ça veut dire qu'on utiliserait 2,3 tonnes de charbon, pardon, ou 1 tonne de gaz chaque personne et chaque année. Donc voilà pour les ordres de grandeur. Et évidemment, donc ce charbon, ce gaz, ce pétrole émet du CO2. Et je ne vais pas trop passer de temps sur la démonstration de l'effet de serre et de l'impact catastrophique qu'il peut avoir sur le climat et sur la planète. Mais quand on écoute les climatologues, ils nous disent que, pour résumer, la Terre a une capacité d'absorption de CO2 qui correspond à 500 kg d'émissions de carbone par an, par personne, pour une population actuelle de 6 milliards d'habitants. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, voilà les émissions de pas mal de pays, et la ligne bleue ici, c'est ces fameux 500 kg de carbone par habitant et par an. Donc je vous propose qu'on commence rapidement par la droite, où on retrouve l'Amérique du Nord, qui sont à peu près 10 fois au-dessus de cette limite d'émission, parce qu'essentiellement ils consomment beaucoup. Après on retrouve beaucoup de pays européens ici, qui consomment à peu près chacun autant. Et puis ce qui est aussi assez inquiétant, c'est qu'ici on a l'Inde qui atteint cette limite, et la Chine qui a déjà dépassé la limite de 500 kg par an par habitant, d'un facteur 2 à peu près. Je crois que c'est des données de 2000. Alors si on regarde en Europe, on voit quand même qu'il y a des différences assez importantes. Alors là, j'ai focalisé sur la France et l'Allemagne parce que c'est des pays qui ont à peu près la même consommation d'énergie par habitant, qui sont relativement comparables, contrairement aux États-Unis qui consomment beaucoup plus. Et on a déjà 30-40% d'émissions de CO2 en moins en France qu'en Allemagne, évidemment grâce à l'utilisation massive du nucléaire pour l'électricité, et l'Allemagne qui est souvent montrée comme un modèle écologique dans les médias, et c'est assez... c'est-à-dire 30 à 40%, c'est déjà une grosse partie du chemin à faire pour arriver à ces fameux 500 kilos par an par habitant. L'autre chose, c'est que le Danemark, qui est encore plus le modèle écologique, est encore pire que l'Allemagne. Donc en France, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut à peu près baisser d'un facteur 4 les émissions de CO2, 3-4, et l'Allemagne, c'est plutôt 6, et les États-Unis, 10. Tout ça pour une population à 6 milliards, donc vous imaginez qu'en 2050, si on est 8-9 milliards, selon les prévisions, la ligne bleue va avoir tendance à baisser. Voilà. Alors donc ça c'est la première raison pour laquelle on peut dire qu'il faut assez rapidement se passer des énergies fossiles et ça va pas être simple du tout. La deuxième raison c'est que comme on l'a dit c'est des énergies dont le stock est limité et ici vous avez une idée des réserves de pétrole selon différentes sources. Alors on est en 2000 ici. Et la question, c'est... Enfin, on est en 2005, donc un peu plus loin. La question, c'est quand est-ce qu'on va atteindre le pic du pétrole, c'est-à-dire à quel moment la production de pétrole va saturer et ne pourra plus assurer la demande, la demande de pétrole qui est croissante. Alors, il y a beaucoup de prospectives qui changent l'image du monde vraiment du tout au tout. Vous voyez les plus optimistes qui sont en noir ici, qui considèrent que ben, finalement, il n'y a pas de problème, avec des arguments qui sont essentiellement ça fait 40 ans qu'on annonce qu'il y a du pétrole pour 40 ans, on va augmenter les technologies d'extraction, etc., et on s'en sortira. La courbe rouge, c'est Total, c'est les scénarios Total, et la courbe verte, c'est l'Association pour l'étude du pic du pétrole, donc qui est le plus pessimiste et qui considère qu'on est déjà dans le pic, ou dans 2-3 ans, on y sera. Alors, après, il faut savoir à qui on fait confiance. Pour l'anecdote, moi j'ai constaté que dans cette courbe verte, est faite essentiellement par des géologues, des anciens géologues d'industrie pétrolière à la retraite, donc déchargés de toute contrainte économique, etc. Et la courbe noire est plutôt faite par des économistes qui travaillent sur les marchés, enfin j'imagine. Donc personnellement j'ai plutôt tendance à croire la courbe verte, mais après vous pouvez vous faire votre propre opinion. Donc, mais quand même, en conclusion, c'est que le pétrole, en 2050, il y a quand même de grandes chances que la production ait baissé et que de toute façon, il n'assure pas l'augmentation de la consommation d'énergie prévue. Le gaz suit un peu le pétrole avec des réserves qui sont un peu plus grandes, mais parce qu'on l'utilise aussi moins aujourd'hui. Donc s'il commence à remplacer le pétrole, on va avoir pour 30, 40, 50 ans de gaz. Par contre, il y a beaucoup de réserves de charbon, à peu près 200 ans de production au taux actuel, et il y a énormément de réserves de fuel non conventionnels, qui sont par exemple des schistes bitumineux, des nitrates, qu'on ne sait pas aujourd'hui extraire, qu'on ne sait pas bien utiliser, parce que évidemment c'est plus cher, donc on va extraire le moins cher en premier, mais on sait que dans ces fuels non conventionnels, il y a des centaines d'années de production possibles. Alors l'enjeu, il me semble, il est là. Il est quand même difficile d'imaginer qu'on ne va pas consommer tout le pétrole pas cher, surtout que normalement il va commencer à baisser dans pas longtemps. Mais l'enjeu, c'est d'éviter, une fois le pétrole et le gaz saturés ou commençant à diminuer, c'est d'éviter d'avoir recours massivement au charbon ou à ces fuels non conventionnels pour remplacer le pétrole et le gaz. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut regarder un peu les autres sources d'énergie dont on dispose pour éventuellement remplacer ces énergies fossiles. Alors là, j'ai fait un petit scénario qui n'a aucune valeur vraiment scientifique, mais dont le seul but, c'est de montrer un peu les ordres de grandeur. C'est simplement une règle de somme. J'ai repris ici les valeurs que je vous ai montrées tout à l'heure. Et puis on dit en 2050, à la fois on double la consommation d'énergie dans le monde et on stabilise la consommation de combustibles fossiles, gaz, pétrole, charbon confondus. Et bien voilà, quand on fait la somme, il manque 10,8 milliards de tonnes de pétrole par an à produire, sachant que la biomasse traditionnelle ne va pas augmenter beaucoup et l'hydraulique non plus, on va y revenir. Donc ça vous donne là encore une idée de l'enjeu qui reste de l'enjeu, c'est-à-dire trouver des sources d'énergie extrêmement massives, 11 milliards de tonnes de pétrole par an, équivalent, mais sans pétrole, sans gaz et sans charbon. Alors je vous propose qu'on survole assez rapidement, je regarde l'heure, assez rapidement les principales sources d'énergie qui peuvent être envisagées. Et je commence par l'énergie nucléaire. Alors je commence par le nucléaire parce que c'est aujourd'hui l'énergie massive disponible qui peut assez rapidement combler une part du trou combler une part du manque. Alors comme je vous l'ai dit, l'ordre de grandeur des énergies mises en jeu dans le noyau atomique par rapport aux électrons qui gravitent autour, c'est le million d'électronvolts. Et quand on casse un noyau d'uranium, on récupère une énergie de 200 millions d'électronvolts à comparer à ces 8 électronvolts pour le gaz. Ce qui fait que c'est une énergie qui est extrêmement concentrée. Je reprends toujours mes 1000 watts par habitant en France. C'est une tonne de gaz naturel et c'est un gramme d'uranium qui a fissionné. Donc vous voyez tout de suite l'intérêt stratégique, c'est-à-dire qu'on stocke facilement du combustible, c'est assez économique et environnemental. Tous les volumes des déchets, etc., seront dans cet ordre de grandeur, c'est-à-dire quand même assez faible comparé aux autres sources d'énergie. Je passe. Alors, est-ce qu'on peut vraiment faire beaucoup de nucléaire dans le monde? La réponse est oui, mais c'est pas simple. Alors actuellement, dans la nature, il y a deux sortes d'uranium. Il y a l'uranium 235 qui lui fissionne très bien, et puis il y a l'uranium 238 qui fissionne mal. Et malheureusement, l'uranium 235 qu'on utilise aujourd'hui ne représente qu'une très faible part du minerai d'uranium, c'est 0,7%. Et alors, quand on consomme une tonne, quand on fait fissionner une tonne d'uranium, donc ça c'est un réacteur nucléaire pendant un an, fissionne une tonne de matière, on consomme en tout 200 tonnes d'uranium naturel, parce qu'on consomme qu'une faible part du minerai. Alors quand on regarde les réserves d'uranium, toutes les réserves estimées spéculatives, avec des barres d'erreur évidemment sur ces chiffres, on a un potentiel devant nous de 300-400 ans de production au taux actuel, mais si vous vous rappelez, c'était 6% de l'énergie dans le monde, et 6% avec 80% de pétrole, de gaz et de charbon. Donc si on dit que le nucléaire joue un rôle pour combler le manque, c'est plus 6% qu'il doit faire, c'est 20-25% dans un scénario énergétique où la consommation aurait doublé. Donc ça veut dire 10 fois plus de nucléaire à peu près dans le monde, et le potentiel de production tombe à 28 ou 40 ans, c'est-à-dire avant 2050, on aura consommé tout le minerai d'uranium. Alors il y a une solution pour augmenter le potentiel énergétique de l'uranium, c'est de faire de la surgénération. Alors très rapidement, c'est l'uranium 238 qui ne fissionne pas. Quand il capture un neutron, il fait de la matière fissile. Donc on peut imaginer des systèmes où on consommerait l'uranium 238 indirectement via le plutonium 239 qui lui joue le rôle de l'uranium 235 et qui est la matière fissile. Alors dans ce cas-là, on consommerait plus qu'une tonne par réacteur par an au lieu de 200. Et donc vous voyez que les 50 ans de réserve deviennent 50 fois 200, 10 000 ans. 10 000 ans de réserve devant nous avec de l'uranium standard. Et de plus, on peut aussi utiliser le thorium avec de nouveau des grandes réserves de thorium. Donc le nucléaire est une énergie durable, massivement, je veux dire, si on le développe beaucoup, uniquement si on a recours à terme à la régénération. Et ça complique un peu les choses parce qu'il faut changer de technologie, et je vous passe ça rapidement pour vous dire que c'est le sujet du Forum international de Génération 4. On entend beaucoup parler des réacteurs de Génération 4, et la plupart de ces réacteurs ont ce but-là, de faire de la régénération, donc de proposer un nucléaire vraiment durable en termes d'utilisation des ressources. Et je vous fais noter aussi en passant que le premier réacteur de génération 4 qui devrait être développé industriellement en 2035, c'est un réacteur rapide au sodium qui rappelle très étrangement Superphénix que nous sommes déjà en train de démanteler. Donc on voit l'impact de la décision du démantèlement de Superphénix, c'est-à-dire que ça repousse le déploiement de ces réacteurs rapides durables à 2035, c'est-à-dire 40 ou 50 ans de retard. Donc voilà, il y a d'autres systèmes, mais il y a des alternatives au sodium qui sont un peu plus complexes, qui demandent beaucoup de recherche, mais je ne m'attarde pas là-dessus. Donc, le nucléaire, pour finir, peut faire 20-25% de l'énergie en 2050, sans doute pas plus. Et ça demandera, c'est un pays qui est, enfin, une terre qui est quand même assez nucléarisée, c'est-à-dire il faudrait que tous les pays aient choisi le système énergétique français, c'est-à-dire faire leur électricité essentiellement avec du nucléaire. Donc c'est pas complètement inenvisageable, mais ça pose quand même quelques difficultés. Alors maintenant j'en viens aux autres sources d'énergie que j'ai séparées en trois. J'aime bien distinguer les énergies renouvelables et inépuisables, parce que dans renouvelables, ça veut dire qu'on peut la renouveler, mais que c'est pas obligatoire. Et l'exemple, évidemment, c'est la biomasse. La biomasse est renouvelable quand on replante autant que ce qu'on consomme, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui avec les problèmes de déforestation, c'est-à-dire qu'on ne renouvelle pas l'énergie qu'on consomme avec la biomasse. Mais bon, si on fait bien les choses, c'est une énergie renouvelable, alors que toutes les autres en dessous, l'hydraulique, le soleil, l'éolien, la géothermie, c'est inépuisable, quoi qu'on fasse, il nous arrivera toujours cette énergie. Et je terminerai par un mot sur la fusion nucléaire. Alors je vais être obligé de passer assez vite sur chacune de ces sources pour pas vous abreuver de trop de chiffres ou de détails, mais je vais essayer de dire l'essentiel. Donc je commence par l'hydraulique. L'hydraulique, déjà on constate que c'est d'abord de l'énergie solaire, c'est grâce au soleil qu'il y a ce cycle de l'eau, etc. Et le soleil, comme on le verra tout à l'heure, c'est une énergie qui est extrêmement diluée, ce qui rend très compliqué son utilisation. L'hydraulique, c'est la seule forme d'énergie solaire, finalement, qui se présente à nous de façon concentrée par le phénomène de ruissellement et qu'on peut utiliser assez facilement avec des barrages ou des turbines au fil de l'eau. Alors le potentiel, donc aujourd'hui c'est près de 20% de la production d'électricité dans le monde. Le potentiel total théorique est très grand, c'est-à-dire qu'en théorie on peut produire autant que ce qu'on consomme d'électricité dans le monde aujourd'hui. Le problème, c'est que les ressources en hydraulique sont très loin des besoins et qu'il faudrait développer des réseaux extrêmement importants dans des pays qui n'en ont pas. Donc on estime qu'on va pouvoir augmenter de 70% au maximum d'ici 2050 la production hydraulique dans le monde. Et avec des impacts assez certains, je ne résiste pas à vous parler de l'exemple de la Chine qui construit en ce moment le barrage des Trois Gorges. 9 gigawatts moyens, c'est-à-dire à peu près 6 réacteurs nucléaires. Et c'est un lac de 2 km sur 640 km, avec plusieurs millions de personnes déplacées pour produire l'énergie de 6 réacteurs nucléaires. Donc il y a un potentiel, mais ça pose quand même quelques problèmes. Alors la biomasse, de nouveau, c'est de l'énergie solaire qui est stockée naturellement, sous forme, via la photosynthèse, sous forme de carbone qu'on peut récupérer. Et ça ne fait pas de CO2 parce que le carbone qu'on utilise quand on le brûle, c'est le CO2 qui a été capté dans l'atmosphère par la biomasse pour faire ce carbone. Donc si on replante autant que ce qu'on consomme, globalement, en théorie, on ne fait pas de CO2. Alors c'est de l'énergie solaire avec un rendement qui est très faible. On récupère dans la biomasse moins de 1% de l'énergie du soleil qui est tombée sur le champ ou sur la forêt. Et c'est une énergie, comme je l'ai dit, qui est absolument pas négligeable au niveau mondial. C'est déjà 10% de la consommation mondiale d'énergie appliquée au chauffage essentiellement. Et là, je voudrais focaliser un petit peu sur l'utilisation de la biomasse dans les transports grâce aux biocarburants. Alors pourquoi les transports ? Parce qu'on sait qu'on va devoir se passer de pétrole. Et c'est les transports où on a le plus de mal d'imaginer comment on peut remplacer le pétrole. Alors les biocarburants, c'est par exemple de l'huile de colza ou de l'éthanol de betterave. Donc c'est un matériau carboné qu'on brûle et on récupère, vous voyez, 1,37 tonnes équivalent pétrole par hectare ou 4 pour la betterave. Et un des gros problèmes des biocarburants aujourd'hui, c'est que ça demande beaucoup d'énergie pour passer de la plante au biocarburant lui-même. Vous voyez que pour le colza, on consomme 0,5 tonnes de pétrole pour récupérer une 37 tonnes. Et pour la betterave, c'est encore pire, c'est 3,22 pour récupérer 4. Donc l'énergie nette produite est de l'ordre un peu moins d'une tonne par hectare. Et ça veut dire que la biomasse, les biocarburants, ça peut devenir quand même intéressant dans un système où cette énergie ici consommée ne produit pas de CO2. Si vous faites du CO2 avec ça, il n'y a pas beaucoup d'intérêt de faire des biocarburants. Alors comme en France, on fait de l'électricité sans émettre de CO2, on peut se dire que développer la filière des biocarburants en France, ce serait une façon de faire des voitures électriques ou en tout cas d'utiliser l'électricité pour les transports sans changer les moteurs, sans changer les modes de distribution. Donc assez facilement réalisable et en évitant les émissions de CO2 liées au pétrole des transports. Alors voilà, le potentiel maximum estimé pour la France, c'est à peu près 20% des transports avec des biocarburants. Bon, et alors après, il faut parler aussi des OGM, des engrais, etc., pour optimiser la fixation du carbone. Mais vous avez là une limite maximum qu'on peut espérer pour les biocarburants. Alors 20% des transports, il faudrait faire quelques réacteurs nucléaires en plus pour consommer cette énergie et la stocker en quelque sorte dans les biocarburants. Alors directement l'énergie solaire, donc, enfin pour conclure sur la biomasse, il y a un potentiel certain et de nouveau vous voyez qu'on ne pourra jamais faire 100% des transports avec de la biomasse comme on ne pouvait pas faire 100% de l'énergie avec le nucléaire. Donc c'est vraiment une accumulation de différentes sources qui pourra peut-être nous sortir du problème. Alors le solaire, donc on parle beaucoup de solaire, c'est une source assez importante d'énergie. Enfin, très importante. On reçoit beaucoup plus d'énergie du soleil sur Terre à chaque instant que ce qu'on consomme, mais elle est assez diluée et en plus, bon, elle est intermittente. Il n'y a pas de soleil la nuit, évidemment. Donc, quand on se place à midi, perpendiculaire au soleil, on reçoit 1000 watts par mètre carré. Et en moyenne, en France, on peut exploiter 100 ou 200 watts par mètre carré en tenant compte du fait qu'il y a le jour et la nuit, qu'il y a des nuages, etc. Alors sur ces 100 à 200 watts, on sait aujourd'hui récupérer environ 30 ou 60 watts par mètre carré pour le chauffage, donc en faisant chauffer de l'eau. Et puis pour l'électricité, on peut faire des systèmes thermiques, on chauffe un fluide et avec ce fluide on fait de l'électricité, on obtient à peu près le même rendement. Et puis il y a des dispositifs qui convertissent directement la lumière en électricité avec des rendements plus faibles de 15%, c'est les fameux panneaux photovoltaïques. Alors l'utilisation de l'énergie solaire, elle est différente selon les pays qu'on considère, il me semble. Dans les pays développés, la première chose à faire, c'est de se chauffer avec du solaire, chauffer l'eau ou chauffer des habitations quand on peut le faire. Et de nouveau ici, je vous ai mis des ordres de grandeur. Alors ça, c'est des ordres de grandeur quand on maximise et qu'on a des politiques très volontaristes pour développer ces systèmes de chauffage. 2,5 millions de tonnes de pétrole pour l'eau chaude, 3,5 pour les logements. Voilà, ça fait seulement 10% de la consommation d'énergie destinée au chauffage. Alors c'est toujours 10%, mais de nouveau, c'est pas 50 ou 100%. Et c'est vraiment avec des politiques assez volontaristes. Alors dans les pays pauvres, par contre, pour finir là-dessus, il ne me semble pas que le développement des panneaux photovoltaïques ait un certain intérêt dans les pays riches qui sont déjà dotés de réseaux et de systèmes de production d'électricité qui n'émettent pas de CO2. Par contre, dans les pays pauvres, il n'y a pas de réseau. Et là, les panneaux photovoltaïques deviennent tout à fait efficaces. Et on pourrait envisager d'augmenter très sensiblement le niveau de vie de ces pays assez rapidement en développant des petits panneaux photovoltaïques couplés à des systèmes de batteries pour stocker l'énergie. Alors je le dis parce que en France ou en Allemagne, on voit souvent d'un très bon œil le développement du photovoltaïque dans nos pays. Alors pour vous donner une idée, la plus grande centrale photovoltaïque en France, elle vient d'être construite il n'y a pas très longtemps à Annecy, il me semble. Et elle fait l'électricité pour 13 personnes. Et alors évidemment, donc ça fait les grands titres dans les journaux. Et il me semble que la même puissance installée dans des pays pauvres, déjà on change la vie, on change la vie de personne, mais on changerait la vie de plusieurs centaines de personnes. Et ce serait beaucoup plus efficace. C'est-à-dire quitte à dépenser de l'argent pour faire du photovoltaïque cher, autant l'installer là où ça sert. Voilà, ça c'est pour le photovoltaïque, mais je conclue quand même qu'il y a un certain potentiel du solaire, essentiellement pour le chauffage thermique dans les pays développés. Alors ensuite, l'éolienne, donc on voit aussi beaucoup d'éoliennes, essentiellement en Allemagne et au Danemark, sachant que l'Allemagne et le Danemark font leur électricité avec du charbon, donc chaque fois que l'éolienne tourne, évidemment ça économise le charbon, donc c'est très bien, ça diminue les émissions de CO2. En France, on fait l'électricité avec de l'hydraulique et du nucléaire. Donc quand les éoliennes tournent, ça ne réduit en rien les émissions de CO2. Donc encore une fois, quitte à dépenser de l'argent, autant le dépenser où c'est utile. Alors c'est une énergie aussi qui vient du soleil et qui est très diluée, encore plus que l'énergie solaire elle-même. L'empiètement, c'est 8 hectares pour 1 mégawatt installé. Ce mégawatt tournant à peu près 15 à 20% du temps en moyenne. Et la production, si vous voulez une idée, c'est 10 watts par mètre carré au sol. Alors évidemment, sous les éoliennes, on peut faire des champs, on peut faire des choses, ce qu'on ne peut pas faire sous les panneaux solaires, mais ça vous donne une idée de la dilution de l'énergie éolienne. Alors de nouveau, comment on fait, quel ordre de grandeur on peut obtenir pour l'électricité éolienne en France, en maximisant, vraiment en ayant des politiques très volontaristes, environ 100 TWh par an. Donc voilà, je vous ai fait le calcul, ça fait 200 watts par habitant, ce qui est toujours pas négligeable, 20% de l'électricité. Ça demande à installer près de 60 gigawatts, et comme une éolienne, ça fait à peu près 1 mégawatt crête. Eh bien, ça fait 50, 60 000 éoliennes, c'est-à-dire 20 par kilomètre de côte, parce que c'est sur les côtes qu'il y a du vent. Donc, de nouveau, on peut faire une part assez importante d'électricité avec des éoliennes, mais on ne fera pas plus que 20%. Bon, c'est aussi intermittent, je dirai un mot un peu plus tard. Bon, ça fait un peu liste. Alors, juste un mot assez rapide sur la géothermie. La géothermie, d'abord, c'est la chaleur qui est dégagée par la Terre entière. Et cette chaleur, elle vient des désintégrations radioactives de l'uranium et du thorium qui sont contenus dans la Terre. Alors la puissance, il y a plusieurs sortes de géothermie que j'ai réussi à peu près à comprendre. Donc je vais essayer de vous expliquer. Donc j'en ai compté trois. Donc il y a la puissance géothermique, qui est la puissance émise constamment par la Terre, qui, elle, représente 0,06 watts par mètre carré. Donc si on se rappelle des ordres de grandeur, l'éolien c'était 10 watts, le solaire c'était 30-60 watts récupérables. Là on est un facteur 100 largement en dessous. Donc c'est une énergie qui est globalement très faible. Et en gros, l'énergie totale de la Terre, la puissance totale délivrée par la Terre, c'est la puissance qu'on consomme dans le monde. C'est exactement le même ordre de grandeur. Donc il n'y a rien à attendre, à mon avis, de cette puissance-là. Mais cela dit, comme ça fait des millions d'années que cette puissance est émise, cette puissance a chauffé la Terre et on se retrouve avec des joules qui sont piégées dans les roches sous forme de chaleur. Mais ça, c'est pas une énergie renouvelable. C'est-à-dire que si on consomme ces joules, on les consomme et elles sont renouvelées à un rythme de 0,06 watts par mètre carré. Donc il faudra attendre encore quelques millions d'années pour les retrouver. Donc ça, c'est renouvelable, mais c'est très faible, et il y a une énergie qui est non renouvelable, qui est stockée sous forme de chaleur, et qu'on peut utiliser, qu'on sait à peu près utiliser. Mais, donc par exemple, en Alsace, il y a une unité de production électrique qui creuse, je crois, à 5 km, qui fait chauffer de l'eau, qui récupère l'eau chaude, et qui fait tourner des turbines avec un rendement de 10%. Mais comme on extrait les joules contenus sous forme de chaleur dans la roche, au bout de 20-30 ans, on aura refroidi le milieu et il faudra aller creuser ailleurs. La troisième que j'ai pas mis là, la troisième forme de géothermie, c'est ce qu'on vend aujourd'hui comme étant la géothermie de surface, qui est un chauffage électrique déguisé, c'est-à-dire qu'on fait une pompe à chaleur en allant récupérer les joules contenus dans la surface de la Terre, qui ne vient pas de la désintégration de l'uranium, mais qui vient du Soleil qui a chauffé la Terre. Ça n'empêche que c'est un chauffage qui est très, très efficace, mais qui n'a absolument rien à voir avec la géothermie dont on parle ici. Alors l'ordre de grandeur du potentiel maximum pour la France, pour l'électricité, c'est 20 watts par habitant, donc 2% de la consommation d'énergie. Et par contre, 7 mégatep pour le chauffage, 10% du chauffage, donc c'est évidemment beaucoup plus efficace pour le chauffage. Donc on a de nouveau un petit 10% là qui peut s'accumuler aux autres. Donc à la fin, je vais vous montrer un scénario qui regroupe un peu tous ces chiffres. Alors un mot sur la fusion. Donc là, je sors du contexte parce que le titre, c'est « Les énergies d'ici 2050 ». Donc il me semble que la fusion n'est absolument pas envisageable d'un point de vue industriel avant 2050 et peut-être avant la fin du siècle si tout se passe bien. Alors le principe de la fusion, c'est de nouveau de l'énergie nucléaire qui met en jeu les noyaux des atomes et on retrouve des énergies de l'ordre du MEV pour les processus élémentaires. Et c'est une technologie qui est assez complexe. parce que les noyaux qui fusionnent ici, deutérium et tritium, sont chargés positivement, et pour les faire collisionner, il faut les chauffer à plusieurs millions de degrés. Et bon, ça, je m'étendrai pas sur la technologie de la fusion et des plasmas. Ce que je veux dire, c'est que ça consomme. Donc, le combustible, c'est du deutérium et du tritium, qui sont deux isotopes de l'hydrogène. Le tritium étant radioactif, avec une période de 12 ans, donc on n'en dispose pas sur Terre. Le deutérium, il est présent dans l'eau de mer avec des quantités infinies à l'échelle humaine pour produire de l'énergie pendant des centaines, des millions d'années. Le tritium, lui, il est produit grâce au lithium 6. Et donc on consomme finalement comme minerai du lithium avec des réserves pour plusieurs milliers d'années, c'est-à-dire autant que la fission de surgénération. Alors ça, c'est pour l'étape qui est étudiée dans le réacteur ITER, c'est-à-dire qui est peut-être envisageable avant 2100. Et puis il y a une étape encore supplémentaire qui, elle, est réellement inépuisable, où on n'utiliserait que du deutérium, donc avec des réserves absolument infinies. Donc vous savez qu'on a obtenu ITER, c'est pour ça aussi que je parle un peu de la fusion, qui semble être donc un outil de recherche tout à fait intéressant pour avancer, mais je ne crois pas qu'on puisse vendre ITER comme étant un réacteur industriel qui peut faire de l'électricité avant 2050. Alors un mot sur l'hydrogène, parce que il me semble que dans les médias, on présente toujours l'hydrogène comme une source d'énergie absolument magnifique, puisque quand on brûle l'hydrogène avec de l'oxygène, on fait de l'eau. Ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est absolument pas une source d'énergie, mais que c'est un vecteur. C'est-à-dire qu'on consomme de l'énergie, qu'on stocke sous forme d'hydrogène, et qu'on récupère après en utilisant l'hydrogène avec de l'oxygène. Donc l'hydrogène doit être produit en consommant de l'énergie, et de nouveau, si vous utilisez... alors ça fait pas de CO2 quand on consomme l'hydrogène, mais si on fait du CO2 pour la produire, ça n'a absolument aucun intérêt. Et il faut bien savoir que le rendement total de l'hydrogène sera assez faible, il faudra produire, stocker, transporter, utiliser, et à chaque fois les rendements se cumulent. Et pour utiliser l'hydrogène, il faudra sans doute augmenter considérablement la production d'énergie primaire, électricité, nucléaire, solaire, etc., pour produire l'hydrogène sans CO2. C'est quand même assez intéressant, parce que c'est un stockage d'énergie qui peut s'avérer tout à fait efficace, et pour toutes les sources dont on a parlé qui sont intermittentes, comme le solaire, comme l'éolien, bien, ce serait une façon tout à fait optimisée d'utiliser ces sources, puisque on produirait de l'hydrogène quand il y a du vent, et on n'a plus ce problème de l'intermittence finalement, puisqu'on saurait stocker l'énergie qui est produite même si on n'en a pas besoin à l'instant T. Cependant, appliquer l'hydrogène au transport demandera de revoir absolument toute la stratégie des moteurs, de distribution, etc. Et il semble quand même que ce soit un frein considérable au développement de cette technologie. Et imaginer 10-20% des transports en 2050 qui marchent uniquement à l'hydrogène, c'est assez compliqué. Donc les biocarburants, dans ce cas-là, seraient beaucoup plus rapides pour commencer à remplacer le pétrole. Alors voilà, ça c'est un résumé de tout ce que j'ai raconté ici. C'est une sorte de scénario qui a été fait par messieurs Bacher et Hackett, que vous pourrez retrouver, je vous donnerai les références après, qui cumule en fait... donc ça s'applique à la France. Ça propose un scénario de demande qui est relativement sobre, où la consommation électrique diminue, où la consommation dans les transports diminue, où le chauffage diminue, etc. Donc on prend en compte toutes les économies d'énergie qu'on peut faire. Et puis ça somme toutes les énergies renouvelables avec leur potentiel absolument optimisé, qui nécessite des politiques très volontaristes. Et on voit, par exemple, donc vous avez 2002-2050, ici c'est l'électricité, ici le chauffage, ici le transport. Et ce qui est important ici, c'est qu'on arrive à des émissions de carbone par an qui passent de 115 à 38, c'est-à-dire quasiment un facteur 4, pas encore un facteur 4, mais on s'en approche. Et ça permet, en tout cas, d'avoir des ordres de grandeur sur les efforts qu'il faut faire pour chacune des sources d'énergie alternatives au pétrole, au gaz et au charbon. Vous voyez qu'en général, on utilise, par exemple, pour le chauffage, plus de pétrole, plus de charbon, beaucoup de bois et de déchets, beaucoup de géothermie, beaucoup de solaire, etc. Donc je remettrai ce transparent pour les questions, que vous ayez le temps de regarder un peu les chiffres. Voilà, donc je vais conclure. Je suis un peu en avance, mais donc je prends un peu de temps. Donc je voudrais redire que si on parle d'économie d'énergie aujourd'hui, beaucoup, c'est important de les faire dans les pays qui peuvent les faire, c'est-à-dire les pays qui consomment trop, qui gaspillent, les pays riches. Mais il faut bien voir que la consommation d'énergie en 2050 sera dictée essentiellement par des pays qui sont aujourd'hui en plein développement, essentiellement la Chine et l'Inde, et qu'il est vraiment inenvisageable d'imaginer que la consommation d'énergie diminue d'ici 2050 au niveau mondial. Alors sauf évidemment guerre mondiale, catastrophe, etc. Mais si le monde va bien, la consommation d'énergie va augmenter entre 15 et 30 gigatep, milliards de tonnes de pétrole par an. Donc vous voyez que là, il y a un facteur 2 qui correspond aux politiques qu'on peut mettre en œuvre pour maîtriser la demande et pour optimiser, augmenter l'efficacité et optimiser l'utilisation de l'énergie. Donc l'énergie va augmenter. Voilà. J'en suis là. Donc l'énergie va augmenter. Les énergies fossiles vont diminuer. Les énergies fossiles conventionnelles, pétrole, gaz. Par contre, il reste le charbon et les schistes bitumineux, et on sait que l'utilisation de ces grandes réserves de combustibles fossiles conduira à un dérèglement climatique complètement catastrophique, et il faut absolument éviter d'avoir recours à ce charbon et à ces fuels non conventionnels. Donc des politiques très volontaristes de mise en place d'énergies alternatives, parmi lesquelles il semble quand même que le nucléaire est aujourd'hui la plus rapide à développer, puisqu'on maîtrise, la plupart des pays maîtrisent la technologie nucléaire. Et puis il y a toutes les autres sources renouvelables, solaires, éoliens, qui, en s'accumulant chacune les unes aux autres, peuvent arriver à la fin à combler le manque. Tout ça, c'est un discours un peu théorique et optimiste sur la fin, mais il faut savoir évidemment que ça demande énormément d'efforts. Il faut maîtriser le coût, il faut maîtriser le stockage de l'énergie, qui est vraiment un point clé pour l'énergie du futur. Et ça veut dire aussi que l'énergie pas chère, on est en train d'en voir la fin, même le pétrole est très cher aujourd'hui. Voilà, je voudrais dire que je me suis beaucoup inspiré de beaucoup de présentations et de travaux, évidemment, puisque je suis pas du tout spécialiste de tout ce que je vous ai raconté là. Donc je remercie messieurs Nifnecker, Tamin, Jancovici, Ngobokis, Bacher et Hackett. Vous pouvez retrouver beaucoup de chiffres sur ces différents sites web, à la fois sur l'énergie, à la fois sur le climat, et à la fois sur des propositions ou des ordres de grandeur ou de choses à faire pour essayer de combiner une production d'énergie, un niveau de vie et puis une réduction de gaz à effet de serre. Voilà, donc je m'arrête sur ce transparent en espérant que vous avez quelques questions ou au moins quelques commentaires sur tout ce que j'ai raconté. Je vous remercie.
Sylvain David, merci beaucoup. Nous allons passer aux questions tout de suite. J'ai une question ici. Attendez le micro, monsieur.
Par contre, j'entends. Oui, est-ce que, bien sûr, on a toujours l'espoir qu'une seule source va nous permettre de développer l'énergie et les résultats industriels et autres, mais est-ce qu'on peut combiner tout de même ? Je pense à ceci. La Chine a plein de montagnes de charbon. Avant la guerre mondiale, les Russes et nous avions étudié le problème de brûler au fond de la mine et puis avoir les usines en haut, n'est-ce pas ? C'était donc une transformation du charbon qui ne donnait pas du CO2 de la même façon. Du CO2. Alors, autre chose, c'est très bien de faire ça, on peut faire ça en Chine, mais il faut transporter et stocker. Alors, il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est la supraconductivité. On arrive maintenant à faire ça à la température ambiante, n'est-ce pas ? Plus ou moins, oui. Alors, bon, ce qui serait finalement à transporter ces énergies construites par exemple, dans le continent chinois, c'est il y a l'installation tout de même, ça, n'est-ce pas, même si c'est supraconducteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résistance qui consommerait énormément d'énergie, on arriverait. Bon, alors évidemment, la guerre mondiale tous les spécialistes sont dans le cimetière militaire. Hein. Alors, c'est une chose qu'il faut donc y penser aussi. Alors, voilà. Est-ce qu'en combinant les techniques de supraconductivité, de transport, de stockage, et avec la production lointaine, on ne peut pas trouver un système qui pourrait fonctionner? Enfin, j'en sais rien, mais je pose la question.
Alors, sur la supraconductivité, donc il me semble que c'est appliqué à la production d'électricité et du transport électrique sans perte, c'est ça que vous voulez dire? Donc ça, c'est pas une source d'énergie, mais ça optimise l'utilisation d'une source qui fait de l'électricité. Pour avoir un ordre de grandeur, il me semble qu'aujourd'hui, les pertes électriques sur le réseau, c'est de l'ordre de 5 à 10%. Donc ça optimiserait effectivement, on gagnerait 5 à 10%. En passant à un réseau supraconducteur sans perte, ça révolutionne pas complètement le paysage. Et ça ne change pas le problème sur le fait qu'il faut produire l'électricité en amont. Par contre, je n'ai pas compris sur le charbon qui ne fait pas de CO2, là. Ah, le CO2 reste au fond des mines. D'accord. Donc c'est un. D'accord, ok. Donc c'est une captation du CO2 directement stocké. D'accord. Donc ça me permet de juste dire un mot, c'est que j'ai pas parlé du stockage de CO2, qui est un thème extrêmement important de recherche aujourd'hui, où on peut envisager de récupérer le CO2 brûlé à la sortie des usines à charbon, de le conditionner et d'aller le stocker. Donc ça demande de savoir comment on le récupère, comment on le conditionne et comment on le stocke. Donc la proposition que j'entends là, c'est de produire au fond de la mine et de le laisser sur place. Donc ça résout déjà deux des problèmes sur les trois.
Nous allons passer notre question au fond. Oui, monsieur.
Merci de me donner la parole pour que d'autres puissent s'exprimer. Je vais essayer de dire assez vite les deux ou trois choses que je voudrais dire. La première, bien sûr, merci pour cet exposé. Vous nous avez apporté de l'information sur la jungle des unités ou sur le mythe de l'hydrogène. Une question, vous n'avez pas mentionné peut-être que l'énergie la moins polluante, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et je voudrais justement parler du site Negawatt, qui justement parle de cela. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que nous recevons du soleil, la surface de la Terre reçoit du soleil environ 10 000 fois l'énergie dont l'humanité a besoin, et qu'une partie de cette énergie, environ 1 000 fois l'énergie dont l'humanité a besoin, se trouve reçue dans l'océan, captée dans l'océan. Et ma question, c'est, savez-vous expliquer ce mystère qui fait que des organismes aussi différents que la Commission européenne, le CEA, le CNRS, le Syndicat des énergies renouvelables ou ATAC ne s'occupent pas de cette ressource renouvelable qui est l'énergie thermique des mers? Ce que je vous dis là, vous pourrez le retrouver en technicolor sur un site web qui s'appelle le Club des Argonautes avec un S sur lequel on parle de l'énergie thermique des mers. Enfin, je voudrais dire encore une chose. En vous écoutant, j'ai pensé à une phrase de Saint-Exupéry qui dit « L'avenir n'est que du présent à mettre en ordre, tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. » Merci beaucoup.
J'ai pas compris, ça résonne. Saint-Exupéry, parce que ça résonne, je m'excuse.
Est-ce que vous pouvez redonner la citation de Saint-Exupéry?
Alors j'y vais lentement. « L'avenir n'est que du présent à mettre en ordre. » Tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. Sous-entendu, quand on dépense beaucoup d'argent dans un domaine de recherche, il y a des tas d'autres domaines de recherche qui risquent d'être stérilisés. Merci beaucoup.
Deux choses. Donc, dans ce que j'ai présenté comme étant l'optimal possible pour les différentes sources d'énergie, ça ne tient pas en compte de l'argent dépensé pour la recherche. Donc je ne suis pas parti du principe de dire qu'on met... parce que je suppose que vous faites allusion au fait qu'en France, on met soi-disant tout l'argent de la recherche sur le nucléaire et pas sur le reste. Je ne suis pas parti de ce principe-là, quoi. Donc on a pris, d'un point de vue simplement physique, ce qu'on pouvait faire avec chaque source d'énergie, sachant que ça demanderait beaucoup de moyens de recherche qu'on ne met pas aujourd'hui, je suis d'accord avec vous. Sur la phrase « la meilleure énergie est celle qu'on ne produit pas », je m'excuse, mais qu'on ne consomme pas, je suis d'accord avec vous ici en France, je me sentirais pas d'aller l'expliquer aux 2 milliards de personnes qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont rien pour stocker les vaccins, les médicaments, etc. Donc c'est un raccourci qui est extrêmement facile, enfin extrêmement rapide, et qui est, à mon avis, assez faux, quoi.
Une question, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, qu'on vous voit. Merci.
Dans les énergies qui existent actuellement, par exemple, la consommation d'essence pour les voitures ou autres, est-ce qu'on ne peut pas ajouter d'autres énergies qui permettraient une consommation moindre que le pétrole? Par exemple, l'urée, qui peut être fabriquée chimiquement et qui peut être tirée aussi de l'urine des bovins, des moutons ou des porcs, et ce qui reviendrait très cher d'ailleurs, mais on peut le fabriquer chimiquement. Est-ce que vous avez entendu parler de cette énergie complémentaire?
Non, alors là, je sais pas quoi répondre. Non, c'est intéressant. Oui, il faudrait aussi récupérer le méthane des vaches. Hein. Mais c'est sans doute... C'est peut-être... Enfin, je franchement, je ne sais pas.
Nous allons passer une question là. À qui... Levez-vous, monsieur, qu'on vous voit bien, monsieur.
Oui. Pensez-vous qu'en 2050, on pourrait envisager l'électrolyse de l'eau de mer avec de l'électricité nucléaire pour produire de l'hydrogène? Ça, au niveau expérimental, prototype ou industriel?
Répétez la question parce que c'est vrai qu'on l'entend très mal.
Donc c'est produire de l'hydrogène avec de l'eau de mer?
À partir de l'eau de mer, en faisant une électrolyse utilisant de l'électricité nucléaire.
Oui. Alors pour produire de l'hydrogène, c'est la voie, il y a beaucoup de voies envisagées pour produire de l'hydrogène. Il me semble, sans être encore une fois spécialiste dans ce domaine, il me semble que la technologie maîtrisée aujourd'hui, c'est l'électrolyse de l'eau, ou de l'eau de mer, qui consomme de l'électricité, donc nucléaire, solaire, éolien, c'est une façon de stocker. Il y a d'autres modes de production envisagés qui annoncent des meilleurs rendements, parce que il semble que l'électrolyse a des rendements quand même assez faibles. Et les systèmes envisagés, c'est des cycles thermochimiques à haute température, iode soufre, qui demandent d'avoir de la température à 800-900 degrés, qui est extrêmement complexe, mais qui annonce des rendements bien meilleurs que l'électrolyse. Donc il me semble qu'il y a deux voies importantes de production d'hydrogène dans cette...
Attendez.
Mais sur l'électrolyse, je suis d'accord, hein, si on fait beaucoup de réacteurs nucléaires, on produit de l'hydrogène par électrolyse et après on met l'hydrogène dans des transports, ça, c'est une solution qui marche. Mais ça demandera à consommer beaucoup plus d'énergie nucléaire qu'avant.
Deux dernières questions, d'abord là-bas et ensuite monsieur. Allez-y. Allez, non, c'est pas la peine de vous lever, posez votre question, monsieur.
Oui, merci, bonsoir, monsieur. J'ai deux questions à poser, une sur ITER, puisqu'on y a fait allusion, et une sur l'éolien.
Sur l'éolien.
Deux questions que je voudrais vous poser, une sur ITER et une sur l'éolien. Au préalable, je voulais vous donner une information concernant l'énergie des mers. On n'en a pas beaucoup parlé, sauf monsieur, je crois, exploiter la différence de température au niveau des tropiques entre la surface et la profondeur de quelques centaines de mètres. Il y a une différence de température non nulle. Selon le procédé Georges Claude, on a fait des expériences au large de l'Afrique centrale et je voulais vous dire que l'idée est complètement abandonnée depuis qu'une étude de faisabilité REM a été faite par un grand groupe industriel pour démontrer que c'est impossible à réaliser compte tenu que les différences de température sont très faibles et donc il faut des volumes énormes d'eau pour arriver à faire tourner en finale une machine à vapeur et donc le projet a été abandonné alors qu'il était à relative petite échelle. Voilà pour la formation de tous. Je ne sais pas si monsieur...
Monsieur, posez votre question maintenant, s'il vous plaît.
Première question, ITER. On se demande comment on pourra inventer un fluide caloporteur pour transporter les calories à partir du plasma qui est à des millions de degrés jusqu'à de la vapeur sous pression au niveau des turbines qui est à quelques centaines de degrés. C'est ma première question sur ITER. Deuxième question sur l'éolien. On parle beaucoup de changement climatique dans les décennies qui viennent. Alors, supposons que ce changement climatique se matérialise par une chute de la vitesse du vent en dessous de 10 nœuds, vitesse à partir de laquelle l'éolien ne marche plus. Donc, c'est d'abord de l'éolien dans cette hypothèse. Merci de vos réponses.
Sur l'éolien, j'ai pas tout compris. Alors, sur ITER, quand même, dans la fusion deutérium-tritium, le plasma est à 10 millions de degrés, mais c'est pas cette énergie qu'on récupère. L'énergie qu'on récupère, elle est emmenée par le neutron qui est produit lors de la réaction et qui traverse les parois et qui va se ralentir dans les matériaux et chauffer les matériaux. Donc après, on a un fluide qui extrait cette chaleur, mais à des températures tout à fait normales. Donc il me semble, c'est un problème de matériaux, il faut trouver des matériaux et un fluide caloporteur qui peut être compatible avec tout l'environnement du réacteur ITER. Il ne me semble pas que ce soit le verrou technologique le plus important. Donc dans les dessins qu'on voit, c'est par exemple du plomb qui circule autour du réacteur pour récupérer l'énergie du neutron et l'évacuer vers les turbines. Sur l'éolien, je m'excuse, mais j'ai pas compris votre question. Ah oui, ben c'est beaucoup mieux sans micro, hein, je m'excuse. Donc en effet, ça veut dire que le potentiel de l'éolien diminue. Mais si on fait de l'éolien, on n'aura pas de problème de climat, tout le monde le sait. Donc,
Une dernière question, monsieur.
Oui, dans la liste des énergies utilisables que vous avez données, il semble qu'il y a une énergie importante qui a été évoquée concernant la mer. C'est-à-dire, il y a eu récemment une expérience faite en Écosse sur l'utilisation de l'énergie des vagues et qui a été très probante. Deuxièmement, l'énergie des marées. Vous n'avez pas mentionné. Est-ce que c'est négligeable ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas faisable?
L'énergie des marées et des vagues, c'est ça? Donc, d'après ce que j'en ai compris, il me semble que l'énergie des vagues, c'est une énergie qui est quand même extrêmement diluée. Et j'ai vu dans aucun cas des potentiels de production qui dépassent celui de la géothermie, par exemple. Donc c'est vrai que j'ai pas parlé de toutes les sources d'énergie, je l'ai dit au début, et il y a notamment celle des marées et des vagues. Les marées, il y a une usine en France qui utilise l'énergie des marées. Il me semble que c'est extrêmement compliqué d'un point de vue des matériaux, de gérer l'eau de mer, etc., avec un potentiel qui à la fin est quand même assez limité. Donc j'ai pas l'impression qu'on puisse espérer beaucoup de ce type d'énergie, mais...
Sylvain David, merci beaucoup.
Je vous remercie.